Sud Radio, parlons Immo. Midi 13h, Sylvain Lévy-Valency.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Parlons Immo. Voilà, je suis de retour avec quelques petites péripéties et j'en profite pour faire un clin d'œil au docteur Benjamin Atwill qui m'a littéralement rendu le sourire qui va bien. Voilà, il s'entendra. Bien sûr, vous êtes à table. On souhaite un très bon appétit. Il est midi. On est réunis avec toute l'équipe de Parlons Immo qui m'accompagne chaque semaine. Notre rédactrice en chef, Bérénice de Villefloriot. Comment elle va, Bérénice, aujourd'hui ?
Alors, malade à cause des enfants, mais tout va bien. Les microbes, mais je suis là, c'est plus important.
Voilà, au taquet, Bérénice de Villefloriot, avec l'ami Grégoire Daricot.
Bonjour Sylvain.
Comment ça va ?
Très bien, les enfants sont malades, mais je ne suis pas malade.
Voilà, et on n'oublie pas notre préféré, notre expert éco-rénovation. Il est avec nous sur le plateau, c'est le docteur Laurent Permas.
Bonjour Sylvain, bonjour.
Merci Laurent d'être avec nous. On va écouter bien évidemment, comme c'est le concept de l'émission, chaque semaine un grand invité est avec nous, un grand monsieur de l'immobilier est avec nous. Il est le président de Century 21 France, Charles Marinakis.
Bonjour Sylvain, bonjour tout le monde. Je ne suis pas malade, je suis en plein temps.
Voilà, on est ravis que vous soyez avec nous, Charles. De quoi on parle aujourd'hui ? Une actualité immobilière, Bérénice, quand même assez soutenue.
Ah oui, très très soutenue. On va parler de
l'investissement, notamment.
De l'investissement, évidemment. On va parler du marché de la transaction avec Charles. Et puis on va parler aussi de la vente à rémunéré. C'était question de nos auditeurs.
Oui, ça.
Qu'est-ce que c'est ? Si vous êtes embêté, ça fonctionne très bien.
Eh bien, vous allez nous expliquer, bien évidemment. Évidemment, on écoutera aussi nos auditeurs après avoir récolté leurs questions, n'est-ce pas ?
Eh bien, c'est ça, la vente à rémunéré. Voilà.
Avec la vente en rémunéré. Rémunéré, c'est pas un sketch.
Non, pas du tout.
Ça existe vraiment. Eh bien, écoutez, on va parler, bien sûr, après rénovation énergétique avec vous au menu de la réno.
Oui, mon cher Sylvain, avec Laurent, on va voir pourquoi consulter un accompagnateur rénov aujourd'hui peut changer votre hiver. Il faut anticiper. Et puis, dans notre chronique Maison Saine, on va décrypter les résultats de la grande campagne Logement 2. On verra que les choses évoluent dans le bon sens. Sur la question de la qualité de l'air intérieur.
Et on fera également le Tour de France, les biens publics.
Alors, c'est pas cette semaine, c'est là, on parlera viager plutôt avec Bérénice.
Oui, absolument, ouais. on va dire les choses comme ça. On va plutôt parler viager que de faire le Tour de France.
Et ce sera très intéressant d'ailleurs, Sylvain, parce qu'on va voir justement quels sont tous les avantages à acheter un bien en viager et surtout à quoi il faut faire attention.
Et on enchaîne avec les infos à retenir avec vous, Bérénice de Villefloriot. Quel est le programme de la semaine ?
Alors, un nouveau ministre pour le logement. Le budget 2026 a des conséquences sur le logement et pas dans le bon sens. Et enfin, on verra qu'un oubli de changement d'adresse, Sylvain, ça peut coûter très 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 cher, 305 000 euros de frais de succession.
Alors, on va commencer avec notre nouveau ministre qui est passé près de la censure, 18 voix près, me semble-t-il. Il s'appelle Vincent Jeanbrun.
Oui, nouveau ministre de la Ville et du Logement dans le gouvernement Le Cornu 2. Faut suivre. C'est Vincent Jeanbrun.
J'allais dire quelque chose, mais je vais me taire.
Il succède à Éric Woerth, qui a fait à peu près 12 heures, qui lui succédait à Valérie Létard, qui était donc sous le gouvernement, Bayrou. Voilà. Vincent Jeanbrun, 41 ans, député du Val-de-Marne et maire de L'Haÿ-les-Roses depuis 2014. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait beaucoup parlé de lui en 2023. Des émeutiers étaient rentrés dans sa propriété, avaient mis le feu, il y avait sa femme, ses deux enfants.
On l'a même reçu sur Radio Immo.
Exactement. À l'intérieur, donc ils avaient du faire. Voilà. Donc Vincent Jeanbrun, il s'est imposé ces dernières années comme une figure montante de la droite locale. C'est un proche de Valérie Pécresse, un proche de Laurent Wauquiez, c'est un élu républicain. Bon, désormais, il faut suivre encore. Il est exclu de son parti. Il avait notamment porté une proposition de loi visant à favoriser l'attribution des logements sociaux aux travailleurs actifs. Il s'était fait remarquer pour un plan banlieue, prônant notamment la fin du logement social à vie, la limitation du parc social à 30% par commune ou encore la vente accélérée de logements sociaux au secteur privé. Évidemment, ces propositions n'avaient pas plu à la gauche. Sa nomination passe pas inaperçue. Elle intervient alors qu'il est visé par une enquête préliminaire du parquet de Créteil pour une prise illégale d'intérêt concernant l'attribution de logements sociaux à d'anciens collaborateurs. Alors, il a fait son premier déplacement en tant que ministre hier. Donc voilà, on va voir comment il prend les dossiers.
Alors, a priori, il connaît bien ces dossiers.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est un maire. Et les maires, en général, connaissent les dossiers parce que c'est eux qui ont les mains dans le cambouis.
Et d'ailleurs, il est à peu près sûr qu'on puisse le recevoir.
Ben, j'espère.
Avant que la censure ne passe peut-être à nouveau. On va parler du budget 2026 et franchement, c'est pas fameux pour le logement.
Et non, il a été présenté en Conseil des ministres mardi et ce budget va faire mal au portefeuille des locataires et des propriétaires. Alors, je vous parle essentiellement, parce qu'il y a plein de mesures, je vous parle essentiellement de deux mesures choc. Déjà, si vous touchez les APL, et ben sachez qu'elles n'augmenteront pas en 2026. Normalement, vous savez, elles sont revalorisées deux fois par an. Elles l'ont été là en octobre dernier, enfin au début octobre, pour suivre l'inflation en fait, pour s'aligner au coût de la vie. Eh bien, elles vont rester bloquées au niveau de 2025, alors que l'inflation, elle, va continuer. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous en bénéficiez, votre pouvoir d'achat va baisser. L'État souhaite économiser plus de 100 millions d'euros sur ce sujet. Il faut noter aussi que les étudiants étrangers hors Union européenne non boursiers, donc qui viennent étudiants en France, vont totalement perdre, eux, leurs APL. Et cette mesure concerne 300 000 jeunes. Une autre mesure choc, Sylvain, vous savez, on en a beaucoup parlé.
Eh oui, le statut du bailleur privé, on fait quoi, là?
Eh bien, il disparaît du budget. Alors,
ah bon,
le statut du bailleur privé, c'est un terme un peu compliqué peut-être pour vous. En fait, c'était la mesure attendue depuis 10 ans pour relancer l'investissement locatif. On en parlera avec notre invité Charles Marinakis tout à l'heure. Le principe, c'était quoi? C'était très simple, c'était de permettre aux Français de devenir propriétaires et de déduire progressivement le prix d'achat de leurs biens, de leurs revenus locatifs. C'est ce qu'on appelle l'amortissement. En fait, c'était pour inciter les Français à investir dans la pierre. Pourquoi c'est grave? Eh bien parce que depuis la fin du Pinel, en janvier, les investisseurs fuient. Il n'y a plus de Français qui veulent investir dans la pierre pour créer du logement. Et ces Français, on en a besoin. Donc la crise du logement n'est pas prête de s'arrêter.
Et ça, c'est vraiment dramatique puisque ça touche des milliers de Français. On va finir avec un oubli de changement d'adresse qui a coûté très cher à une personne. C'est vrai. Oui. Hein,
c'est une histoire vraie. C'est l'histoire de Pierrot. Oui. Pierrot qui vit un véritable cauchemar administratif. Oui. Après sa retraite, sa sœur quitte Paris pour rejoindre la Ciotat. Tous les deux, ils sont célibataires sans enfants. Donc ils se disent, bon, on va habiter ensemble. Ils vivent ensemble pendant 12 ans. Ils sont frères et sœurs.
Hein. Oui, oui, oui.
Dans la maison familiale, c'était la maison de leurs parents. Josiane décède, donc sa sœur décède. Pierrot pense hériter sans frais, parce que la loi le permet, entre frères et sœurs de plus de 50 ans, célibataires, ayant vécu ensemble 5 ans minimum, l'exonération est totale. Sauf que, eh bien, sa sœur n'avait jamais changé son adresse administrative.
Et il ne le savait pas.
Voilà, bah, il ne le savait pas, non. Donc sur le papier, elle vivait toujours à Paris dans son studio. Donc pour l'administration fiscale, impossible de prouver la cohabitation. Résultat, 305 000 euros de droits de succession à payer. C'est 45% de taxation sur 700 000 euros d'héritage. Oui, en France, c'est cher, hein, les frais de succession. Donc pour régler la facture, Pierrot, bah, il a dû vendre l'appartement parisien, hein, le petit studio parisien. Et pourtant, il avait coché toutes les cases. Donc la leçon, l'exonération entre frères et sœurs existe, mais elle est fragile. La moindre incohérence dans vos papiers, et c'est 45% d'impôts qui tombent. Donc pensez à tout vérifier par un notaire, c'est important.
Voilà, et dans votre affliction, n'oubliez pas de régler vos frais de succession. C'était les inconnus. Voilà, merci Bérénice. Et tout de suite, on va attaquer le chantier du siècle.
Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente...
Sud Radio, parlons éco-rénovation.
Avec vous, Grégoire Daricot.
Bonjour Laurent Pernas.
Bonjour Grégoire.
Alors soyons clairs, si vous avez déjà eu froid dans une maison mal isolée malgré le chauffage à fond, cette chronique, elle est pour vous. Aujourd'hui, on parle d'un acteur encore trop méconnu mais qui peut littéralement changer votre confort cet hiver. Il s'agit de l'accompagnateur France Rénov. Et oui, le contacter maintenant, ça peut faire la différence entre un hiver subi et un hiver au chaud, n'est-ce pas mon cher Laurent?
Oui, alors on peut commencer peut-être par une phrase choc, hein, en avoir marre d'avoir froid ou chaud, vous voyez, c'est le marre, c'est la contraction de mon accompagnateur Rénov, on est en forme ce samedi. Donc franchement, on peut le dire, à la rénovation énergétique...
Il a mangé du tigre hein, ce matin.
Oui, on s'y perd totalement, même très vite, hein, entre les aides, les devis, les artisans, les diagnostics, et puis à qui faire confiance. Donc justement, l'accompagnateur Rénov, lui, eh ben, il est là pour vous guider de A à Z, hein, c'est un peu le copilote de votre maison, ça me parle hein, en tant qu'aviateur, et l'accompagnateur Rénov, lui, justement... Il est indépendant, il est agréé par l'État et son job, c'est de sécuriser vos projets. Donc ça, c'est sympa.
Parce que Laurent, on a tous entendu des histoires de galères.
Ah bah, elles remontent plus facilement que les succès, ou en tout cas les chantiers qui arrivent à l'heure. Et donc c'est justement, alors souvent les Français signent trop vite un devis sans les aides, donc c'est trop tard, se retrouve avec des travaux inachevés, ou pire, en fait pas le fait. Et donc lui, l'accompagnateur, il va tout vérifier, hein. Il va notamment vendre, en tout cas, on ne vend pas une pompe à chaleur ni d'isolant, il vend de la méthode et de la tranquillité. Hein. Il est neutre, il n'a pas, pas d'autre métier.
Alors concrètement, Laurent, qu'est-ce qu'il fait pour nous, justement?
D'abord, il commence par un diagnostic énergétique. On peut parler même d'un audit énergétique complet de votre logement. Hein, pas le juste, il fait froid, ou et pourquoi. Ensuite, Il va construire un scénario de travaux adaptés selon votre maison, votre portefeuille. Et puis, il monte tous les dossiers d'aide publique. Ça, c'est important. À la fois ma prime rénov, les C2E, hein, c'est les certificats d'économie d'énergie, vous savez, c'est privé. Parce que, justement, elles sont nombreuses. Et puis, il faut pas se tromper. Et puis, il vous aide à choisir aussi le bon devis, à éviter les offres trop belles, pour être vrai. Hein. Attention à la pompe à chaleur à 1 euro. Et puis, surtout, il va suivre le chantier du début jusqu'à la fin. Et puis, il vérifie si tout ce qui a été promis est bien livré.
Donc, en fait, on évite les surprises.
On évite surtout les arnaques, en fait, hein, et payer deux fois.
Vous avez raison. Non, mais la chaudière à 1 euro, on peut le dire aux Français, c'est de l'arnaque.
Il faut arrêter
voilà,
ça.
Voilà, on arrête. D'accord.
Et oui, parce qu'une rénovation ratée, ça coûte plus cher qu'une rénovation bien planifiée, mon cher Laurent. Un exemple, peut-être ?
Ben oui, on va prendre une famille. Lançons-nous dans la Loire, tiens. Maison des années 70, ils voulaient juste changer leur chaudière. Donc l'accompagnateur France Rénov donc, est arrivé. Il a dit on commence par isoler les combles, sinon vous chauffez les oiseaux. Et puis résultat, 35% d'économie d'énergie sans même toucher à la chaudière. Et en plus, ils ont obtenu en tout cas 9000 euros d'aide qu'ils ne connaissaient même pas.
Alors pourquoi faut-il s'y prendre maintenant et pourquoi ne pas attendre par exemple le mois de novembre ?
Bah parce que la réouverture de la prime rénov c'est maintenant, la rénovation globale c'était le 30 septembre, donc c'est ouvert. On peut contacter un accompagnateur aujourd'hui et être prêt pour l'hiver. On peut lancer ces travaux, et puis il est important aussi, depuis 2024, hein, il est obligatoire, notamment pour toutes les rénovations d'ampleur.
Allez, juste avant de finir, quelques chiffres parlants quand même, c'est important.
Oui, ça se passe plutôt bien parce qu'on a plus 60% de rénovation d'ampleur avec notamment mon accompagnateur Rénov et deux classes en plus d'économie d'énergie, d'étiquette, 80% des coûts de travaux notamment qui sont couverts pour lorsqu'on a un bon dossier. Et puis selon l'ANA, un projet sur deux, notamment sans accompagnement, échoue ou reste partiel.
Et puis la question que tout le monde se pose, où est-ce qu'on trouve cet accompagnateur et combien ça coûte ? Ce sera notre dernière question.
Oui, sur le site francerénov.gouv.fr, on va dans la rubrique « Mon accompagnateur rénove ». Et le tarif, c'est gratuit pour les ménages modestes. Et c'est jusqu'à 1500 euros qui sont pris en charge pour les autres cas.
Merci Laurent Permas.
Merci Grégoire.
Sud Radio, parlons éco-rénovation.
Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie.
Eh bien, on va revenir dans quelques minutes, les amis, avec une courte pause. On va répondre aux questions des auditeurs avec vous, Bérénice de Villefleurion. On va parler d'eux.
Endetté, qu'est-ce que c'est ? Ça peut vous aider.
Voilà, la vente à rémérer. Et ensuite, nous recevons notre grand invité qui nous fait le plaisir d'être avec nous en ce samedi, Charles Marinakis, le patron de Century 21. A tout de suite.
Basile, votre application de recherche immobilière présente...
Sud Radio, parlons immo. Midi 13h, Sylvain Lévy-Valency.
Un excellent week-end à vous les amis, on parle de votre logement, de l'immobilier. Si vous êtes à table, on vous souhaite également un excellent appétit. On va justement parler d'un sujet extrêmement important, c'est la vente en réméré. On va le faire avec vous, Bérénice de Villefleurion.
Avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente...
Sud Radio, parlons immo, ça vous concerne.
Et oui, les amis, ça vous concerne. Nous avons reçu un SMS cette semaine, Bérénice.
Oui, je rappelle que vous pouvez nous envoyer vos SMS, vous envoyez IMO, I2MO au 72018, puis votre question et on y répond. Et là, cette semaine, alors j'ai eu deux messages, deux SMS sur la vente à réméré. Alors j'en lis un. Bonjour, j'ai une question sur la vente à réméré. J'entends de plus en plus parler de ce dispositif présenté comme une solution pour les propriétaires en difficulté financière. Concrètement, en quoi ça consiste et comment ça fonctionne ? Donc on va recevoir notre expert, Anthony Bernard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général associé d'Apirem. Alors Apirem, justement, vous proposez la vente à réméré. La vente à réméré, qu'est-ce que c'est ?
Tout à fait. Alors simplement, la vente à réméré, c'est de permettre à une personne propriétaire d'un bien immobilier de le vendre à un investisseur rapidement afin d'obtenir de l'argent et donc de pouvoir répondre à un besoin de trésorerie pour rembourser des dettes ou réaliser un projet. L'avantage de cette vente, c'est qu'elle permet à notre client de garder un droit de rachat et aussi de pouvoir l'occuper sur une période de 5 ans maximum.
Donc ça veut dire que l'acheteur, celui qui achète le bien, il devient entièrement propriétaire, c'est ça, de la maison par exemple ?
Et voilà, tout à fait. Il y a un transfert de propriété et c'est ce transfert de propriété qui permet à notre client d'obtenir entre 50 et 70% de trésorerie par rapport à la valeur du bien et d'avoir cette possibilité de l'occuper sur une période de 5 ans maximum.
Donc ça veut dire que si le bien fait 200 000 euros, concrètement, la personne qui le vend, l'occupant, reçoit tout de suite minimum 100 000 euros, c'est ça ?
C'est ça, tout à fait. Bah, pour vous raconter rapidement l'histoire d'un couple qui nous a contacté en 2021, leur objectif était de pouvoir solder un crédit qu'ils avaient à la banque pour lequel ils étaient en défaut de paiement. La banque réclamait le remboursement intégral du crédit, donc le bien est évalué environ 200 000 euros. Il restait encore 100 000 euros à payer et pour éviter de se faire saisir, eh bien, nos clients ont opté pour ce mécanisme de la vente à rémérer, ce qui leur a permis de gagner du temps et de rembourser leur dette en intégralité.
Et donc l'acheteur, on est d'accord, c'est souvent des professionnels, c'est ça hein ?
C'est oui, des fonds. Tout à fait. C'est principalement des fonds d'investissement, des foncières immobilières qui sont des professionnels de l'immobilier.
D'accord. Et alors, qu'est-ce qui se passe au bout de 5 ans, si ça se passe bien ?
Alors, bien entendu, si ça se passe bien, l'accompagnement que l'on apporte à nos clients leur permet donc soit de racheter intégralement le bien à un prix qui est fixé dans l'acte de vente, ou dans une deuxième partie, de pouvoir revendre ce bien à sa valeur du marché et de pouvoir obtenir un complément de prix. Évidemment que si à l'issue des 5 ans, notre client n'a pas trouvé d'option de solution pour rembourser l'investisseur, c'est l'investisseur qui récupère pleinement la propriété du bien.
Et du coup, ça veut dire que l'investisseur, il aura le bien pour la moitié de son prix ?
Alors du coup, effectivement, on a un investisseur qui a acheté un bien pour la moitié de son prix et qui peut derrière le revendre sur le marché, tout en, si on a un client de bonne volonté et de bonne foi de l'autre côté, pouvoir lui proposer de recevoir un complément de prix.
Anthony Bernard, justement, ça tombe bien, on a le patron Century 21. Vous connaissez la vente à rémérer, c'est quoi ? C'est un crédit hypothécaire ? C'est comment ça fonctionne ?
Alors bien sûr, je connais, parce que c'est mon métier que de connaître tous les leviers de l'immobilier, mais... Je suis pas, pour être tout à fait transparent, je suis pas fan de ce type de solution. Voilà, je pense que là c'est.
Après, ça s'adresse à un public cible. Là, pour le coup, c'est pour des personnes qui sont endettées, c'est-à-dire à qui la banque ne veut plus prêter. Et c'est soit ils se font saisir la maison. Alors c'est une solution d'urgence, hein, c'est ça, Anthony ?
Oui, tout à fait. Évidemment, on est dans des situations où le point commun pour nos clients, c'est d'être un peu dos au mur et où les banques ferment les portes.
Justement, Anthony Bernard, donc ils ont un crédit. En fait, c'est une forme d'hypothèque sur la maison. On rend liquide un bien immobilier pour permettre, à condition qu'il soit amorti, je suppose.
Alors, on a des opérations où les clients n'ont pas encore en totalité remboursé leur crédit immobilier et on fait en sorte de pouvoir justement solder ce prêt. Hein,
voilà. Donc, si vous êtes solvable, si vous pouvez avoir un crédit immobilier à la banque, évidemment, ça ne s'adresse pas à vous. Dans ce cas-là, vous allez voir un courtier. Voilà, là, c'est vraiment pour des propriétaires surendettés. Merci beaucoup, Anthony Bernard, directeur général associé d'Apirem.
Sud Radio, parlons immo, ça vous concerne.
Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr.
Eh bien les amis, si vous êtes à table, bon appétit. Il est l'heure de recevoir notre grand invité. Il est avec nous sur le plateau. Bonjour Charles Marinakis.
Bonjour Sylvain.
Vous êtes le président de Century 21 France. On va parler aujourd'hui de la tendance immobilière avec des chiffres tout neufs de Century 21. Vous êtes très écouté lorsque vous publiez vos résultats. Les ventes repartent, les prix se redressent. Mais que se passe-t-il exactement sur le marché, Charles ?
Que des bonnes choses. On a suffisamment souffert entre la fin du deuxième trimestre 2022 et le quatrième trimestre 2024. Vous savez, nous avons subi de plein fouet l'augmentation brutale des taux qui elle-même faisait suite à l'augmentation brutale de l'inflation, qui a totalement freiné le marché pendant 2 ans. Je rappelle quand même que la volumétrie des transactions a baissé de 32% en 2 ans, ce qui est énorme pour un marché comme le nôtre. Et puis depuis la fin, le dernier trimestre 2024, eh bien, d'une part, les agents immobiliers ont bien travaillé et ont pu faire un gros travail sur la révision des prix à la baisse, avec aussi la bonne compréhension des Français de la nécessité pour celles et ceux qui voulaient vendre d'ajuster leurs prix. Et puis surtout, une baisse des taux qui reste pour nous le levier majeur de ce marché-là. Les taux étant revenus à des proportions raisonnables, du coup, ça a redonné du pouvoir d'achat immobilier aux Français, ce qui explique la dynamisation du marché. Voilà, donc depuis, allez, on va dire le dernier trimestre 2024, tout va bien mieux et on a même retrouvé une espèce de situation d'équilibre que, pour ma part, je trouve assez saine, avec des taux qui sont plus à 1% ou à 1,2, mais qui sont à 3,2, ce qui reste malgré tout tout à fait normal. Et puis des prix qui ont quand même baissé significativement en 18 à 24 mois et dans certaines régions avec des baisses à deux chiffres. Vous voyez, c'est une vraie baisse.
Oui, c'est vrai,
des prix,
une conjugaison finalement d'une maîtrise de l'inflation, d'une baisse des taux ou d'un plateau des taux d'intérêt et d'une relance. Charles Marinakis, malgré le contexte politique et économique incertain, on le voit hein, avec les rebondissements des précédents gouvernements, on lit que le marché immobilier retrouve des couleurs. Concrètement, les Français sont toujours aussi fans de projets immobiliers. C'est toujours le besoin français.
Mais ils ont toujours été fans, les Français. C'est juste que parfois, ils sont empêchés, que la macroéconomie les empêche de mettre à dessein leurs projets, si vous voulez. Mais ils ont toujours été fans. Tous les sondages qui sont faits depuis 20 ans disent que 85% des Français veulent être propriétaires de leur résidence principale. Quand ils ne le font pas, c'est qu'ils ne le peuvent pas. Soit ils ont pas.
Pour être très clair, indépendamment de certaines personnes du gouvernement qui pourraient penser le contraire, les Français aiment l'accession à la propriété.
Mais bien sûr, ils adorent l'accession à la propriété. Puis c'est le bon sens, hein, c'est une conversation qu'on avait dans les couloirs. Finalement, avoir un toit sur sa tête de manière pérenne, notamment pour les périodes de retraite, etc., pour garantir la sécurité, puis un environnement de vie aussi à sa famille et à ses enfants. Finalement, est-ce que c'est pas un objectif qui est louable ? Évidemment que si, voilà.
Alors y a-t-il des oubliés
des hommes politiques pour penser le contraire.
vous avez raison de le dire.
Non, mais c'est la vérité.
D'ailleurs, on ne sait plus vraiment à quel sens vouer. Est-ce que tout le monde est concerné par cette reprise ? Je pense notamment aux jeunes, vous savez, qui veulent devenir propriétaires en primo-accession. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui, Charles, des dispositifs qui fonctionnent vraiment pour la primo-accession ? Et vous l'avez toujours dit, la primo-accession, c'est le tracteur du marché.
Primo-accession, oui. C'est ceux qui achètent pour la première fois.
Voilà, c'est ceux qui voilà, absolument. L'explication dans le texte, by Bérénice de Villefleurion.
C'est ça. Les primo-accédants sont ceux qui achètent pour la première fois. Alors en fait, il y a un dispositif qui fonctionne bien, qui est le prêt à taux zéro. Voilà, il faut être lucide, ça donne un vrai coup de main à celles et ceux qui n'ont pas suffisamment d'apport personnel. En fait, si vous voulez, ça permet, quand ils arrivent à obtenir une quotité d'emprunt à 0%, bien, typiquement, ça baisse, si vous voulez, leur charge d'emprunt et donc ça leur permet d'accéder à cette fameuse propriété. Donc, c'est vrai qu'on pourrait imaginer qu'avec les prix qui restent malgré tout relativement élevés dans l'immobilier, des taux aux alentours de 3 à 3,5%, ce soit totalement confiscatoire pour ces gens qui veulent acheter pour la première fois. Mais il y a quand même des accompagnements dont je vous dis ce prêt à taux zéro qui favorise l'accès à la
propriété. Ça marche bien.
Ça marche bien.
Vous êtes un tracteur
entre
d'un marché.
Entre ça, le prêt à taux zéro et ma prime rénov, ça marche bien.
Bien sûr. Alors justement, parlons argent. Les prix s'envolent ou pas, vraiment ?
Non.
Est-ce qu'on a vraiment un côté très hétéroclite dans les territoires
français ? Alors il y a toujours eu, vous savez, moi je défends le principe des marchés de l'immobilier, pas
vous
un
l'avez
marché
toujours
d'immobilier.
Dit, absolument.
J'ai toujours défendu cette posture-là. Donc évidemment, il y a des disparités qui sont des disparités importantes d'un secteur géographique en France à l'autre. Mais si je prends, parce qu'il faut bien donner une moyenne nationale, depuis le début de l'année, vous voyez, les prix n'ont augmenté que de 1,6%. Ça reste une augmentation, donc on s'en serait passé. Alors, mais ça reste malgré tout tout à fait digeste.
Vous avez toujours dit, il y a un effet mécanique entre la baisse des taux et la reprise du marché. Ouais. Vous l'avez toujours dit, il y a un corollaire. Alors, on voit, il y a un plateau, c'est vraiment léger pour l'instant avec la baisse, même s'il n'y a pas de petites économies. Est-ce que vous craignez une remontée plus importante à cause du contexte économique et politique incertain ? Est-ce que ça entraînerait, selon vous, une rupture encore du marché? Est-ce que vous pouvez également nous rappeler justement cette idée que vous avez très précisément sur l'impact des taux? Je pense bien sûr au déclassement de la France par l'agence Fitch qui pourrait engager peut-être une hausse des taux d'intérêt ou pas, selon vous.
Alors moi j'ai un indicateur, Sylvain, qui n'est pas celui-là.
Lequel?
Je sais que tout le monde regarde le niveau de cotation de la France et ses capacités d'emprunt. Bah,
quand même,
tout le monde surveille l'OAT à 10 ans.
Bah oui.
Moi, je surveille l'inflation. Mon pire ennemi, le mistigri des sociétés modernes en termes de macroéconomie, c'est l'inflation.
Bah, c'est ça qui fait remonter les taux.
Exactement. Et donc, si vous observez ce qui s'est passé en 2022, tout allait bien. Inflation parfaitement bien maîtrisée à 0,70. On n'avait d'ailleurs jamais eu une inflation aussi basse depuis des années et des années. Tout d'un coup, il y a les conditions d'accès à l'énergie s'enflamment, que ce soit le pétrole ou l'uranium ou d'autres énergies, notamment à cause de la guerre en Ukraine. Et puis tout d'un coup, vous vous souvenez, les fameux boulangers dont les coûts de l'électricité ont été augmentés de 30%, parce que comme on a fermé des centrales nucléaires, ben finalement, au lieu d'être exportateur d'énergie, on redevient importateur d'énergie, donc on fait monter le coût d'énergie, etc. Et donc on se retrouve tout d'un coup avec une inflation alors que ça faisait des années que plus personne n'en parlait. Hop, l'inflation, ça repart. Et là, c'est la catastrophe. Parce que derrière, qu'est-ce qui se passe? La Banque Centrale Européenne ajuste les taux au fur et à mesure que l'inflation augmente. Voilà.
Merci, Charles. Restez avec nous, s'il vous plaît, sur le plateau. Justement, dans la deuxième partie, on continuera à vous poser des questions. Vous êtes à table. Bon appétit. On se retrouve dans quelques instants.
Basile, votre application de recherche immobilière présente...
Sud Radio, parlons immo, midi 13h, Sylvain Lévy-Valency.
Eh bien, rebonjour les amis, voilà, où que vous soyez sur le territoire, vous êtes à table, on vous souhaite un bon appétit. Parlons Immo, c'est votre émission qui parle de votre logement et d'immobilier. Il est avec nous toujours sur le plateau pour cette seconde partie d'entretien. Charles Marinakis, merci d'être avec nous.
Avec grand plaisir.
Le patron de Century 21, ceux qui ont déserté le marché, Charles, et qui ont renoncé à tout achat d'appartement ou de maison, ce sont les investisseurs. On dit qu'ils ont fui l'investissement locatif. On en parle souvent d'ailleurs avec Bérénice, dans le but notamment de le placer en location, ce qui est logique. Pourquoi ils sont partis là? Ça devient plus attractif, l'investissement immobilier?
C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde, je crois, a fait tout ce qu'il a pu pour que ces investisseurs s'en aillent. Il faut juste rappeler un concept très simple en deux mots. Derrière chaque locataire sur le parc locatif privé, il y a un propriétaire bailleur. Voilà. Donc soit on le diabolise, soit on comprend qu'il est d'une utilité absolue pour la société française et notamment toutes celles et ceux qui ont besoin de se loger. Auquel cas, il faut avoir un prisme différent. Aujourd'hui, tous les dispositifs, si vous voulez, qui ont été mis en place, l'ont été à la charge du propriétaire bailleur. Donc forcément, ça fait reculer un certain nombre de gens qui ne veulent plus faire ce type d'investissement parce qu'ils ont la contrainte de mise en conformité énergétique, parce que vous l'avez vu, c'est dans la presse d'hier et d'aujourd'hui, les taxes foncières ont explosé, parce qu'il faut faire des travaux dans les plans pluriannuels de copropriété, parce que d'abord les taux d'emprunt ne sont plus à 1% mais à 3%. Voilà, donc il y a plein d'indicateurs convergents mais qui sont tous négatifs. Après, moi ce que je dis quand même quand on est investisseur, l'investissement, c'est sur du long terme. Si vous voulez faire du spéculatif, allez mettre votre argent dans le 440. Si vous voulez faire de la plus-value à moyen et long terme, vous venez dans l'immobilier. Et si on veut être tout à fait honnête, il faut prendre dans ce cas-là la plus-value à terme et la rajouter au rendement direct que vous avez eu. Voilà. Donc ça reste intéressant. Contrairement à ce que peuvent déclarer certains grands patrons d'immobilier, l'investissement dans l'immobilier, ça reste quelque chose de très intéressant.
Concrètement, vous qui êtes sur le terrain tous les jours, on a des agents immobiliers, c'est Century 21, qui discutent avec les Français au quotidien de leurs projets. Qu'est-ce qui les bloque? Trop d'impôts? Trop de normes?
Alors, les normes, pour les investisseurs, oui, les normes sont compliquées, trop d'impôts, avec certitude aussi. Et puis, ne nous voilons pas la face, l'incertitude sur le recouvrement des loyers, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens sortent du parc locatif privé, le mettent soit en saisonnier, soit en location meublée professionnelle ou non professionnelle, et voire sur certains marchés, comme le marché parisien, demandent à avoir un bail civil pour échapper à la réglementation, si vous voulez, des logements. Parce que quand vous avez un locataire qui ne paye pas son loyer, vous savez tous que c'est extrêmement difficile de le déloger de là. Donc là, votre actif, il est paralysé. Et ça, c'est antinomique avec la notion d'investisseur. Voilà, ça, c'est un vrai sujet. Alors, il y a toujours la possibilité de prendre une garantie des loyers impayés, ce qui se pratique de plus en plus.
De plus en plus.
Mais ça a un coût.
Alors, justement, pour vous, cette disparition des investisseurs devient une conséquence sociétale avec un fort impact social. Expliquez-nous, justement. Vous dites, en substance, que finalement, sans les investisseurs privés, on a un équilibre relatif sur le plan social au niveau du logement. C'est ça que vous voulez dire?
Oui, je dis ça parce que si vous voulez, globalement, rares sont les gens qui passent directement par l'acquisition. On transite tous à un moment donné de notre vie par une phase de location. Donc on a besoin d'avoir un marché locatif qui soit disponible. Or, ce qui se passe aujourd'hui, il y a la contraction de plusieurs phénomènes. D'abord, les logements neufs, ils s'en fait plus ou quasiment plus. Or, je rappelle que 50% des logements neufs étaient à destination du parc locatif privé. Donc ce parc, il est mécaniquement asséché. Les Français qui n'ont plus les moyens de quitter leur location parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'acheter restent dans leur logement. Et puis les investisseurs qui étaient attirés par l'attractivité des plus-values immobilières, eh bien ils y viennent plus parce qu'ils se disent « si je ne suis pas payé de mon loyer ». Donc c'est toutes les sources d'approvisionnement du parc locatif privé ont été taries. Ça veut dire qu'on ne peut plus mettre des logements à disposition des Français. Or moi je dis, si je suis le gouvernement, quelle est l'attitude la plus sociétale ou la plus civique? De mettre son argent au CAC 40 et d'attendre gentiment dans son fauteuil en regardant la télé que la plus-value fasse son effet sans que j'ai rien à faire, ou investir dans un studio que je vais mettre à disposition des étudiants qui ont besoin d'aller faire des études ou d'un jeune couple qui s'installe. D'après vous, quelle est l'attitude qu'il faut favoriser?
Oui, c'est que du bon sens.
Et je rajoute une chose qu'on oublie de dire, c'est que l'investissement locatif, c'est le seul investissement pour lequel on peut emprunter à la banque. On peut pas faire ça pour investir sur les marchés financiers.
Exactement, sur le marché
financier. Charles Marinakis, nous reste moins d'une minute. J'aimerais que vous nous donniez votre avis sur cette question cruciale du rapport qui avait été fait par le député Cosson et le sénateur Daubresse pour le statut du bailleur privé. C'est quoi votre avis? Bon, pas terrible?
Rapport excellent, si j'en crois par le contenu d'excellent. Peut-être un peu trop généreux, si on se dit un peu les choses, je pense qu'il n'aurait jamais été adopté en l'état. Ce qui est important, Sylvain, c'est que tous les professionnels crient, d'accord, depuis des années maintenant, réclament un statut du bailleur privé avec des compensations, d'accord. Moi, je veux bien de la décence énergétique, je veux bien de la décence locative, je veux bien des loyers plafonnés, je veux bien tout ce qu'on veut, mais il faut garantir aux gens qui investissent dans la pierre un statut du bailleur privé, ce que tout le monde réclame. Et je regrette que, de nouveau, dans le projet de loi, dans le budget 2026, malheureusement, ce statut ne figure pas au programme.
Vous savez quoi, mon cher Charles, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Charles Marinakis, merci d'être
merci
venu
beaucoup.
Sur le plateau. Restez avec nous jusqu'à la fin. L'émission, puisqu'on a une grande question à vous poser. Je rappelle que vous êtes le président de Century 21. Prenez soin de vous comme prenez soin de votre maison. C'est notre chronique Maison Saine dans quelques instants.
Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé. Murprotec vous présente
Sud Radio. Parlons Immo, Maison Saine.
Justement, une maison saine avec vous, mon cher Grégoire, et nous avons Edouard David en ligne.
Oui, parce que mon cher Sylvain, chaque semaine, on s'intéresse à une menace invisible mais bien présente dans des millions de logements. Je veux bien sûr parler de l'humidité et de la qualité de l'air intérieur. Alors au menu, aujourd'hui, un sujet très concret. Comment repérer les signes d'humidité dans son logement? Et une question très importante, on va en parler avec Edouard David, responsable du pôle d'engagement sociétal de Murprotec. Bonjour et bienvenue Edouard.
Bonjour Grégoire, bonjour à tous.
Alors Edouard, j'aimerais qu'on parle et qu'on explique brièvement, s'il vous plaît, ce qu'est la campagne Logement 2 et ce qu'elle mesure exactement.
Oui, bien sûr. Alors la campagne nationale Logement 2, qu'on appelle CNL2, c'est une vaste étude qui a été pilotée par l'Observatoire de la qualité des environnements intérieurs, l'OQEI. Elle a été menée entre 2020 et 2023 dans plus de 570 logements représentatifs de l'habitat français. L'objectif était de mesurer la qualité de l'air intérieur. On a relevé pour ça donc plus de 170 paramètres, dont les polluants chimiques, les particules fines, le dioxyde d'azote notamment, mais aussi des éléments comme l'humidité, la température et la ventilation. Et les chercheurs ont aussi interrogé les habitants sur leurs habitudes de vie, leur état de santé aussi également. Et l'objectif, c'était vraiment de mieux comprendre les liens entre logement et santé respiratoire.
Et alors justement, Edouard, quels sont les résultats les plus marquants de cette campagne ?
Alors, il y a du positif. Depuis la première campagne qui avait été lancée au début des années 2000, la qualité de l'air intérieur s'est améliorée. On observe une baisse de certains polluants comme les composés organiques volatiles, les fameux COV, ou le formaldéhyde qui était à l'époque très présent. Mais attention, ces progrès ne doivent pas masquer le reste du tableau. Et même si 6% des logements dépassent les seuils recommandés en matière de formaldéhyde, par exemple, cela représente donc toujours 2,2 millions de logements, soit 4,5 millions de personnes en France qui sont concernées. Et c'est toujours trop.
Ouais.
Et la CNL2 montre que de nombreux logements restent encore au-dessus des valeurs de référence sanitaire pour plusieurs polluants, notamment les particules fines ou le dioxyde d'azote. Donc autrement dit, l'air de nos logements s'améliore, mais il reste souvent trop chargé.
Et un mot, Edouard, sur l'humidité et ces fameuses moisissures.
Alors, c'est un problème qui touche aussi bien les logements anciens que les habitations qui sont récentes. C'est même parfois plus marqué dans les logements très performants sur le plan énergétique, car une isolation renforcée, sans ventilation adaptée, peut piéger l'humidité.
Ouais.
C'est ce qu'on appelle le paradoxe du logement étanche. On consomme moins d'énergie, mais on respire parfois un air plus humide et plus pollué, avec à la clé des impacts sur la santé respiratoire. Et c'est un lien, enfin ce lien entre habitat et santé, il se vérifie également noir sur blanc, puisqu'on a l'enquête santé habitation qui avait été menée en 2024 par Santé Respiratoire France et Murprotec, et on avait notamment relevé que 43% des malades respiratoires avaient déjà vécu dans un logement humide. Donc aujourd'hui, on peut largement le dire, l'humidité dans le logement est un facteur majeur qui favorise l'apparition et l'aggravation des maladies respiratoires.
Edouard, est-ce que la campagne Logement 2, elle révèle des disparités selon le type de logement ou selon la localisation du logement ?
Alors oui, la CNL2 met bien en évidence plusieurs disparités importantes selon le type de logement, son âge et sa localisation. D'abord, on observe que les logements anciens présentent souvent des concentrations plus élevées de certains polluants, notamment ceux liés aux matériaux de construction ou aux systèmes de chauffage. Et à l'inverse, les logements récents, mieux isolés, plus étanches, montrent parfois des niveaux accrus de polluants chimiques, vous savez, issus du mobilier ou des produits d'entretien, et surtout quand la ventilation est insuffisante, hein. Donc, on a des variations régionales, on a des variations selon les zones urbaines ou les zones rurales, et aujourd'hui, donc, la CNL2 confirme bien que la qualité de l'air intérieur, elle dépend fortement du type de logement, encore une fois, de son état et de ses équipements dans sa globalité. Donc, c'est un enjeu local, mais aussi national, et chaque contexte appelle des solutions adaptées.
Allez, Edouard, pour terminer, quel message tirer pour les habitants, pour ceux qui nous écoutent, et que peut-on faire concrètement à partir de tous ces résultats que vous évoquez ?
Eh ben, les résultats de la CNL2, elles nous montrent bien que malgré des progrès sur certains polluants chimiques ou particules fines, il y a une grande partie des logements qui restent exposés à des polluants intérieurs et à des situations qui favorisent l'humidité. Et en fait, ces constats nous rappellent qu'avant même de parler d'isolation ou de performance énergétique, il est essentiel de s'assurer que le logement est sain et bien ventilé. Le premier message, Grégoire, c'est qu'il faut vérifier l'état des murs. Mmh. Isoler un mur humide, c'est une erreur fréquente, car ça renferme l'humidité, ça dégrade la qualité de l'air et ça réduit en même temps l'efficacité de l'isolation à terme. Aucune rénovation ne peut être pleinement performante si le bâti n'est pas assaini au préalable. Ensuite, quand l'humidité est liée aux habitudes de vie, hein, vous savez, la cuisine, les douches, le séchage de linge, le bon réflexe, c'est bien évidemment de contrôler son système de ventilation. Trop souvent, il est sous-dimensionné, mal calibré ou mal entretenu. Donc, un logement bien ventilé, c'est un logement qui respire et donc des occupants qui respirent mieux. Voilà.
Au fait, respirez votre logement. Merci beaucoup, Edouard David, et à vous qui nous écoutez, allez sur maison-saine.fr.
Sud Radio. Parlons Immo, Maison Saine.
Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé.
Eh bien, merci Grégoire, et encore une fois, faites attention à la qualité de l'air intérieur, un vrai sujet. Une petite pause et on va se retrouver juste après pour la dernière partie de notre émission. Au programme, on va parler justement du viager tout de suite, et restez avec nous.
Basile, votre application de recherche immobilière, présente...
Sud Radio, Parlons Immo, midi 13h, Sylvain Lévy-Valency.
Les amis, vous êtes sur Sud Radio, comme tous les samedis, 12h-13h, on parle de votre logement dans Parlons Immo, on parle vrai, on parle de vos soucis parfois d'accéder au logement, d'acheter, de louer. Vous êtes avec nous dans cette émission, on va parler maintenant d'un sujet, c'est le sujet viager, avec vous, justement, de Bérénice de Villefleurio.
Parlons viager.
Avec l'Office du viager, bien conseillé, bien protégé.
Et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'achat d'un bien viager. Peut-être que vous, qui nous écoutez, vous y avez déjà pensé, peut-être que vous l'envisagez. Qui peut acheter en viager? Pourquoi pas vous? À quoi faut-il faire attention et quels sont les avantages et les inconvénients? Alors pour y répondre, on accueille Marine Livotti, directrice de l'Office du viager. Bonjour Marine.
Bonjour.
Alors Marine, si on envisage d'acheter un bien immobilier en viager, et par quoi faut-il commencer?
Alors, ben, très simplement, il faut déjà se poser les bonnes questions. Pour ça, je vais vous proposer une petite checklist des questions à se poser en amont. Déjà, quel est mon budget global, savoir quel est le bouquet déjà que je peux consacrer, donc c'est la somme que je vais verser comptant le jour de la signature chez le notaire. Quelles sont ensuite les rentes, les sommes que je vais pouvoir verser chaque mois? Quels sont les frais annexes que je suis capable et susceptible de prévoir? Ensuite, déjà, est-ce que je suis à l'aise avec la durée d'investissement, puisque c'est un projet qui va durer et s'étaler sur plusieurs années. Ensuite, est-ce que j'ai bien compris le type de vente dans lequel je m'engage? Est-ce que c'est un viager occupé, libre, nue propriété? Quel va être l'état réel du bien que j'ai en face? Quels sont les travaux que je vais avoir à prévoir? Et ensuite, ai-je bien identifié toutes les charges et les taxes qui seront à ma charge dans le temps?
Et Marine, quels sont les avantages d'acheter en viager? Alors, j'imagine que le premier, c'est le prix.
Oui, tout à fait. L'acheteur, effectivement, va bénéficier d'une forte décote sur le prix à l'achat. On compte à peu près entre 40 et 60% de la valeur marchande lorsqu'on est sur un viager occupé. C'est-à-dire que c'est le cas dans lequel, en fait, le plus courant, dans lequel le vendeur va continuer à occuper son logement. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est en fait tout simplement la majorité des ventes en viager qu'on propose. Et sur ce principe-là, on va avoir une décote qui est calculée en fonction de l'âge du vendeur et de la durée estimée d'occupation.
Donc j'imagine que plus le vendeur est jeune et moins la décote est grande.
Oui, c'est ça.
Et comment ça se passe concrètement le jour de la transaction? Comment ça se passe au niveau du paiement pour un achat viager? Et vous l'avez dit, hein, vous avez évoqué les frais. Quels sont les autres frais à prévoir?
Alors ben, concrètement, par rapport à un projet immobilier classique dans lequel on va avoir recours à un crédit bancaire avec des mensualités relativement fixes, là le viager va permettre un paiement progressif. C'est-à-dire qu'on va avoir un bouquet qui va être versé sous forme de somme d'argent le jour du passage chez le notaire, puis des rentes qui vont être versées de manière échelonnée dans le temps. Donc quels sont les frais très précisément à prévoir le jour où on passe chez le notaire? C'est le montant du bouquet qui lui inclut déjà les frais d'agence. Il faut ajouter à cela les frais de notaire, un prorata de taxes foncières et puis un prorata d'éventuelles taxes de frais de copropriété qu'il pourrait y avoir si on est en appartement par exemple. Et ensuite, on vient le paiement des rentes mensuelles qui lui va s'effectuer jusqu'au décès du vendeur senior.
Et j'imagine que les frais de notaire, c'est comme dans l'ancien, c'est 7 à 8% du montant du bien, c'est ça, en plus ?
Et alors, c'est pas du montant du bien, mais ça va être calculé sur la valeur occupée du bien. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le calculé sur le montant du bouquet et des rentes cumulées dans le temps.
D'accord. Quels sont les autres...
Donc, c'est un avantage.
D'accord. Quels sont les autres avantages à acheter en viager ?
Alors les autres avantages, c'est que ça va permettre en fait une sorte de diversification de patrimoine. C'est une grosse alternative finalement à l'investissement locatif parce qu'il n'y a pas à y avoir de gestion dans le temps, il ne va pas y avoir d'impayé de loyer. Et en plus de ça, ça va être un placement qui va être utile et à la fois solidaire parce qu'on va aider un senior à rester chez lui, à se maintenir à son domicile, à ce qu'il connaît. Et puis en plus de ça, ça reste un investissement qui va être sur du long terme et qui va être sécurisé. Beaucoup de nos clients vont chercher par exemple à préparer leur retraite ou à transmettre un patrimoine à leurs enfants, par exemple.
Et puis, il ne faut pas oublier que ça complète aussi, vous l'avez dit, hein, la retraite d'un senior. Et ça, c'est important de penser à nos seniors. Alors, évidemment, comme chaque transaction, ça se passe chez le notaire. À l'Office du Viager, vous proposez un accompagnement également en amont.
Oui, tout à fait. Donc le notaire, il va jouer un rôle essentiel puisqu'il va venir sécuriser, c'est lui qui va rédiger l'acte. Mais finalement, à l'Office du Viager, on a un rôle clé à jouer, notamment au niveau de l'encadrement juridique et en amont, puisqu'on vient encadrer finalement chaque étape de ce projet de vente. On va prévoir toutes les clauses nécessaires, on va pouvoir anticiper tous les cas de figure, la répartition future des charges, les modalités de paiement, le cas de départ anticipé, les visites éventuelles de l'acquéreur dans son bien une fois qu'il a acheté. Donc notre mission finalement, elle va être assez grande et elle va permettre d'avoir une transaction qui va être claire et sereine du début jusqu'à la fin.
Merci beaucoup Marine Livotti, directrice de l'Office du Viager. On peut vous retrouver sur officeduviager.fr.
C'était Parlons Viager.
Avec l'Office du Viager, bien conseillé, bien protégé.
Eh bien, merci Bérénice et merci à Marine Livotti, le viager. Une excellente façon aussi de préparer sa retraite, par exemple, et d'avoir une retraite plus apaisée. Vous restez toujours avec nous, Charles Marinakis. C'est l'heure de la grande question. On va parler de quoi, Bérénice ?
Eh bien, d'une décision tombée cette semaine, une décision de justice qui relance le débat sur l'encadrement des loyers. Le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté préfectoral qui encadrait les loyers à Lyon et à Villeurbanne, juste à côté de Lyon. En clair, la justice a jugé que la carte utilisée par la préfecture pour délimiter les zones concernées n'était pas assez précise et donc contraire au principe de clarté du droit. Alors, l'État va faire appel et un nouvel arrêté devrait entrer en vigueur dès le 1er novembre prochain, mais cette décision interroge. Le dispositif est-il utile? Faut-il le maintenir? Charles Magnakis, vous êtes président de Century 21. Vous connaissez parfaitement le terrain. Est-ce selon vous une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle que cet arrêté d'encadrement des loyers soit annulé? Et plus largement, est-ce que ce type de dispositif aide vraiment à contenir les loyers ou est-ce qu'il risque au contraire de décourager les propriétaires et d'aggraver la pénurie de logements?
Alors, vous avez une minute.
Une minute. Alors, rapidement, le cas de Lyon, c'est une question technique, donc ça va être vite être purgé. La vraie question, c'est la question de fond sur l'encadrement des loyers. Moi, je suis toujours très embêté avec cette question-là, parce que d'abord, j'en comprends parfaitement la vocation sociale, et là, je peux même, pour certains sujets, la partager. Et deux choses par rapport à ça. J'ai quand même l'impression qu'on a déplacé dans le marché locatif privé une problématique qui est du ressort des logements sociaux. Aujourd'hui, on appelle ça logements sociaux. Moi, je suis d'une génération où j'ai connu les HLM. Or, sauf erreur de ma part, HLM, ça veut dire habitation à loyer modéré. Donc, j'ai l'impression que c'est quelque chose, si vous voulez, qui existait dans le parc public, enfin, qui avait pour vocation d'être l'apanage des logements sociaux et pas forcément ces loyers plafonnés ou modérés pour le parc locatif privé. Bon, pour autant, c'est un dispositif qui commence à courir dans un certain nombre de villes. Moi, je ne dissocierai pas ça du statut du bailleur privé. Alors, vous savez, il y a plein de mécaniques dans le statut du bailleur privé. Moi, je crois qu'on devrait dire aux gens, voilà, il y a un loyer moyen à Lyon, c'est 20 euros, 25 euros du mètre carré. Si vous louez, plus vous louez proche de ça, plus votre déduction fiscale est importante. Si vous dépassez ce loyer-là, vous réduisez votre déduction fiscale. Et là, on ne fera que des heureux, c'est-à-dire on va être proche du prix du marché. C'est votre choix de savoir si vous voulez déduire ou pas. C'est le choix aussi des locataires de venir dans un loyer de marché. C'est une mécanique simple que tout le monde peut facilement comprendre. Ça évite des amortissements, des ceci, des cela. Voilà, j'adosserais ça. Je suis un homme de grands équilibres et de contrepartie.
On va le
La contrepartie
suivre.
Des loyers modérés, je termine juste une seconde.
Très rapidement.
La contrepartie du loyer modéré, c'est un statut du bailleur privé.
Merci Charles Marinakis d'être venu sur le plateau de Parlons Immo. Je rappelle que vous êtes le président de Century 21 France. À suivre, notre ami Alain Marty qui va parler de vin avec vous in vino. On parle de vin effectivement également sur Sud Radio. À 13h30, vous retrouvez l'excellente Judith Belair dont Parlons Femmes sur Sud Radio. Et n'oubliez pas, 14h30, le top 14, ce sera Bayonne Clermont. Et je rappelle également que comme tous les semaines, le mardi à midi, vous retrouverez l'émission en intégralité, en rediffusion, sur Radio Immo. On vous souhaite un excellent week-end, une belle semaine à vous. Prenez soin de vous et on se retrouve pour parler de votre logement samedi prochain.
Sud Radio, Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency.